8 janvier. Regardez intensément. Il me semble qu'apprendre, de même qu'écouter, est chose incroyablement ardue. Nous n'écoutons jamais véritablement parce que notre esprit n'est pas libre. Nous avons les oreilles rebattues de tant de choses déjà connues de nous qu'il devient extrêmement difficile d'écouter. Je crois, ou plutôt c'est un fait, que si l'on sait écouter de tout son être, avec toute sa vigueur et sa vitalité, alors cet acte même a un effet libérateur. Mais malheureusement, jamais on n'écoute vraiment, n'ayant jamais appris à le faire. En définitive, on n'apprend qu'en étant passionnément impliqué. Quand on se passionne pour les mathématiques, on apprend, mais lorsqu'on est dans un état conflictuel, qu'on apprend sous la contrainte, sans en avoir envie, alors ce n'est plus qu'un simple processus d'accumulation. Apprendre, c'est comme lire un roman aux personnages innombrables. Il requiert toute votre attention, pas une attention contradictoire. Si l'on veut apprendre ce qu'est une feuille de printemps ou une feuille d'été, il faut la regarder vraiment, en voir la symétrie, la texture, saisir sa nature de feuille vivante. Il y a tant de beauté, de vigueur, de vitalité dans une simple feuille. Ainsi, pour apprendre à connaître la feuille, la fleur, le nuage, le coucher de soleil ou un être humain, il faut les regarder avec une intensité extrême. Janvier. Pour apprendre, l'esprit doit être silencieux. Pour découvrir le neuf, on doit partir tout seul, complètement démuni de tout, surtout de connaissances. Car il est très facile, au moyen de connaissances et de croyances, d'avoir des expériences. Mais celles-ci, n'étant que le produit de nos projections personnelles, sont absolument irréelles, fausses. Si vous voulez découvrir le neuf, ne vous chargez pas du fardeau du vieux, surtout de connaissances, des connaissances d'un autre, même s'il est très grand. Vos connaissances vous servent de protection, de sécurité. Vous voulez être tout à fait sûr de participer aux expériences du Bouddha, du Christ ou de X. Mais l'homme qui ne cesse de s'abriter derrière des connaissances n'est pas un chercheur de vérité. La découverte de la vérité n'a pas de chemin. Lorsque vous voulez découvrir le neuf, lorsque vous expérimentez dans quelque domaine que ce soit, votre esprit doit être très tranquille. Car s'il est encombré, rempli de faits et de connaissances, tout ce bagage est un obstacle au neuf. La difficulté est que, pour la plupart d'entre nous, l'esprit est devenu si important, a acquis une valeur si prédominante, qu'il intervient chaque fois que se présente une chose neuve qui pourrait exister simultanément avec le connu. Ainsi, les connaissances et le savoir sont un obstacle pour ceux qui voudraient chercher, pour ceux qui voudraient essayer de comprendre ce qui est intemporel. Janvier. Apprendre ne relève pas de l'expérience. Le mot apprendre est chargé de sens. Il existe deux manières d'apprendre. Pour la plupart d'entre nous, apprendre signifie accumuler des connaissances, des expériences, maîtriser une technologie, un savoir-faire, une langue étrangère. Il y a également un apprentissage d'ordre psychologique qui passe par l'expérience, soit les expériences immédiates de la vie, qui laissent certaines traces résiduelles, soit celles liées à la tradition, à la race, à la société. Il y a donc deux manières d'apprendre les choses de la vie, l'une psychologique, l'autre physiologique. Un savoir-faire intérieur et un savoir-faire extérieur. Entre les deux, il n'y a pas de ligne de démarcation bien nette. Ils sont imbriqués. Nous laisserons de côté pour l'instant le savoir-faire issu de la pratique, le savoir technologique acquis grâce à l'étude, pour nous intéresser de plus près à cet apprentissage psychologique que nous avons acquis au cours des siècles ou dont nous avons hérité sous forme de tradition, de savoir, d'expérience. Pour nous, c'est cela, apprendre. Or, je conteste qu'apprendre soit de cet ordre-là. Je ne remets pas en cause l'acquisition d'un savoir-faire, d'une langue étrangère, d'une technique. Mais, psychologiquement parlant, je doute que l'esprit apprenne jamais. L'esprit a appris au fil du temps, et c'est avec ce bagage qu'il affronte les défis de la vie. Il ne cesse de traduire la vie ou d'interpréter chaque nouveau défi en fonction de ce qu'il a appris. C'est ce que nous faisons tous. Mais est-ce bien cela, apprendre ? Cela ne suppose-t-il pas plutôt quelque chose de neuf, d'inédit, que j'ignore, et qu'en ce moment même j'apprends ? Si je ne fais rien d'autre qu'ajouter à ce que je sais déjà, ce n'est plus apprendre. Apprendre. Quand est-ce possible ? S'enquérir et apprendre, telle est la fonction de l'esprit. Cela ne signifie pas, à mes yeux, cultiver simplement la mémoire ou accumuler des connaissances. Apprendre est la capacité de penser clairement, sainement et sans illusion. C'est se fonder sur des faits et non sur des croyances et des idéologies. On n'apprend rien lorsque la pensée se fonde sur des conclusions. Acquérir simplement des informations ou des connaissances n'est pas apprendre. Apprendre, c'est aimer comprendre, c'est aimer faire une chose pour la chose elle-même. Apprendre n'est possible qu'en l'absence de toute contrainte. Et la contrainte a de multiples visages, n'est-ce pas ? Elle s'exerce à travers l'influence, à travers l'attachement ou la menace, à travers les encouragements persuasifs, les formes subtiles de récompense. On croit généralement que la comparaison incite à apprendre, alors que c'est l'inverse qui est vrai. La comparaison donne lieu à des frustrations et ne fait qu'encourager une certaine forme de jalousie qu'on appelle la compétition. Comme d'autres formes de persuasion, la compétition empêche d'apprendre et engendre la peur. Apprendre n'est jamais d'ordre accumulatif. Apprendre est une chose, acquérir des connaissances en est une autre. Apprendre est un processus continu, pas un processus additif dans lequel on accumule pour agir ensuite sur ses bases. La plupart d'entre nous engrangeons les connaissances dans notre mémoire. Sous forme d'idées, nous les stockons sous forme d'expériences et c'est sur ces bases que nous agissons. Autrement dit, nous agissons sur la base du savoir technologique, du savoir en tant qu'expérience, en tant que tradition. Du savoir lié aux tendances particulières qui nous sont propres. C'est à partir de cet arrière-plan d'expérience, de tradition, de savoir accumulé que nous agissons. Rien ne s'apprend par un tel processus. Apprendre n'est jamais un processus d'accumulation. C'est un mouvement perpétuel. Je ne sais si vous vous êtes déjà vraiment demandé ce qu'est apprendre, acquérir des connaissances. Apprendre n'est jamais d'ordre accumulatif. Ce n'est pas stocker des connaissances comme si c'était des marchandises pour en faire ensuite le support de l'action. On apprend en chemin à mesure que l'on avance. Il n'y a donc jamais un instant de régression, de détérioration ou de déclin. Janvier. Apprendre sans passer. La sagesse, c'est à chacun de nous qu'il appartient de la découvrir. Elle n'est pas le résultat du savoir. Sagesse et savoir ne font pas bon ménage. La sagesse advient quand la connaissance de soi est à maturité. Si l'on ne se connaît soi-même, l'ordre est impossible. Il n'y a point de vertu. Apprendre à se connaître et accumuler un savoir sont deux choses différentes. Un esprit engagé dans l'acquisition du savoir n'apprend jamais. Il engrange des informations, des expériences sous forme de savoir, et c'est sur ces bases accumulées qu'il vit des expériences, qu'il apprend. Donc, en définitive, jamais il n'apprend réellement. Il ne fait toujours que connaître, savoir, acquérir. Apprendre, cela se passe toujours dans le vif du présent. Ce savoir-là est sans passé. Dès que vous vous dites « j'ai appris », vous avez basculé dans le champ du savoir et, sur la base de ce savoir, vous pouvez accumuler, traduire, mais plus apprendre. Seul l'esprit qui ne cherche pas à acquérir, mais qui apprend toujours, peut comprendre dans sa globalité ce que nous appelons le « moi », l'ego. Je dois me connaître moi-même, connaître les structures, la nature, la signification de cette entité globale, mais cela m'est impossible si je suis encombré de savoir acquis, d'expériences passées, ou si mon esprit est conditionné. Alors, je n'apprends pas, je ne fais qu'interpréter, traduire, et regarder les choses d'un regard déjà voilé par le passé. Janvier. L'autorité empêche d'apprendre. Nous apprenons le plus souvent grâce à l'étude, au livre, à l'expérience ou à l'enseignement qui nous est dispensé. Ce sont les voies usuelles par lesquelles on apprend. Ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire, de penser ou de ne pas penser, comment il faut percevoir, réagir, nous nous en remettons à la mémoire pour stocker toutes ces notions. Grâce à l'expérience, à l'étude, à l'analyse, à l'investigation, à l'introspection, nous stockons des connaissances sous forme de mémoire, puis cette mémoire intervient en réponse à d'autres défis, d'autres exigences, à partir desquelles on apprend encore et toujours. Ce qui est appris est confié à la mémoire en tant que savoir, et ce savoir fonctionne chaque fois qu'un défi se présente, chaque fois qu'il nous faut agir. En vérité, je crois qu'il existe une toute autre manière d'apprendre, et je vais en parler un peu. Mais pour comprendre et pour apprendre de cette façon différente, il faut s'affranchir complètement du joug de l'autorité. Sinon, vous ne ferez que subir une instruction et répéter ce qu'on vous a dit. C'est pourquoi il est très important de comprendre la nature de l'autorité. L'autorité empêche d'apprendre, si l'on admet qu'apprendre n'est pas l'accumulation d'un savoir devenu mémoire. La mémoire répond toujours en fonction de schémas établis. Toute liberté est absente. Celui qui ploie sous le poids du savoir, des directives, de toutes les connaissances acquises, n'est jamais libre. Il peut être fort érudit. Pourtant, tout ce savoir accumulé l'empêche d'être libre. Il est donc incapable d'apprendre vraiment.